Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour cette émission mensuelle Histoire d'archives avec aujourd'hui Laure Franek. Bonjour.
Bonjour Odile.
Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de l'alimentation.
Oui, oui, oui. Alors, on en avait déjà évoqué à l'antenne le travail qu'ont mené les archives pour une petite exposition itinérante sur l'alimentation. Et plus particulièrement vraiment les repas dans les Basses-Alpes, du 18e jusqu'à nos jours. Et il se trouve que dimanche dernier, j'ai été conviée par une dynamique association de Saint-Michel-l'Observatoire. L'association s'appelle les Amis de Saint-Michel de Lincel, qui, dans le cadre de leurs travaux associatifs, ont organisé un repas avec des produits anciens, des recettes traditionnelles, et m'ont invité à revenir sur ce thème. Et ça m'a donné envie d'en faire partager nos auditeurs, et parce que c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde, évidemment, l'alimentation. Et c'est assez symptomatique de la façon dont vivaient les gens dans le département pendant les deux siècles derniers. Voilà. Donc, alors tout d'abord, dire que c'est une exposition qui n'a pas été si facile que ça à monter, enfin un travail pas si facile que ça, parce que l'alimentation dans les archives, en tout cas dans les archives départementales, qui ont essentiellement des archives publiques, n'est pas si facile que ça à traquer, j'allais dire. Alors c'est vrai qu'on s'est appuyé sur le travail d'Éric Fabre, hein, vous savez, cet historien dont on a publié les travaux il y a bientôt 2 ans maintenant, non, plutôt il y a 1 an, enfin bon, il a écrit une grosse somme sur la vie rurale en Haute-Provence, donc on s'est appuyé sur ses travaux. Mais après, dans les archives publiques, hormis au détour une mention au cours d'un procès, une relation d'une foire par exemple dans une coupure de presse, enfin, c'est assez difficile finalement de savoir ce que mangeaient nos ancêtres, en tout cas au travers des archives publiques qui sont l'essentiel de ce qu'on conserve chez nous. Heureusement, on a aussi quelques archives privées, et puis dans les archives publiques, on trouve quand même trace des indications de comment se nourrissaient les Basses-Alpins autrefois. Voilà, donc ça c'était pour dire que c'était pas si facile que ça finalement de se dire, en partant vraiment d'archives, hein, j'entends évidemment, on peut toujours questionner les grands-parents pour savoir quel plat se faisait à la maison, mais en partant d'archives, ça n'est pas si simple que ça. Après, l'idée, c'était aussi un petit peu de tordre le cou à certaines idées reçues concernant l'alimentation, la cuisine provençale. Non, la ratatouille n'est pas un plat depuis le Moyen-Âge. Il y a de la tomate, évidemment, n'a été introduite que tardivement avec la découverte du Nouveau Monde. Et elle s'est introduite assez lentement, en fait, en France, certes, par la Provence, mais il y a une diffusion quand même relativement lente. Aussi, on s'est rendu compte que la nourriture des Basses-Alpins était vraiment frugale. Ça, je crois que ça a été peut-être ce qui nous a le plus impressionné. C'était une région pauvre, un climat difficile, l'agriculture n'était pas facile à exploiter, c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, hein. Mais là il y avait vraiment des difficultés pour s'alimenter. Donc les recettes sont quand même très simples, les produits sont très simples, évidemment très peu de viande, bon, ça c'est une constante dans toute la France, mais là il y a vraiment quelque chose de très fort, avec en plus, Monsieur Labadie regardait par exemple la taille moyenne des conscrits pour la Première Guerre mondiale. Les hommes étaient très petits, mais quand je dis très petits, c'est vraiment très petit. Hein. Il n'est pas rare d'avoir du 1m20, 1m30, enfin, on est vraiment dans des tailles vraiment très très petites, et l'exception c'est vraiment les grandes tailles. Voilà, donc un petit peu pour brosser un trait. Et donc du coup, le repas, ce qu'on voulait faire un peu la distinction entre que mangeaient les riches, que mangeaient les pauvres, en fait, fondamentalement, je ne dis pas qu'ils mangeaient la même chose, mais c'est surtout au niveau de la quantité, en fait, et de la diversification des plats. C'est-à-dire qu'un riche va manger peut-être moins souvent, mais en quantité plus abondante. Il y aura évidemment plus de viande, et puis il aura accès à des produits de manière régulière, ce que n'a pas le pauvre travailleur. Voilà un peu les grandes idées qui ont été développées dans cette exposition, qui s'est traduite par la réalisation de de plusieurs panneaux sur deux thèmes. L'un qui mettait l'accent sur les produits. Alors évidemment, le pain, le vin, la viande, fromage, les huiles et les produits exotiques. Et six pratiques ou tant de repas, donc le repas de tous les jours, hein, le repas des riches et le repas des humbles. Voilà un peu l'évolution des goûts aussi, parce qu'évidemment... On ne mange pas du tout de la même façon qu'autrefois. Les casse-croûtes et les pique-niques, hein, donc les repas pris un peu sur le pouce. Les banquets et les repas de fête. Les repas du voyageur. Et les spécialités locales, notamment par rapport au commerce de tout ce qui était les fruits séchés. Voilà. Donc voilà un peu comment s'est construit notre exposition. Et là... Si cela plaît à tout le monde, je propose un peu de revenir sur ces différents points et d'évoquer ces pratiques et ces produits.
Eh bien, avec plaisir.
Alors, vous allez voir, ça va forcément donner de l'appétit aux auditeurs, hein, parce que, en fait, voilà, les goûts ont énormément évolué, déjà d'un point de vue culturel, et puis simplement les conditions économiques ont fait que les goûts ont évolué. Par exemple, pour prendre le premier produit qui est le pain, qui est quand même un produit essentiel dans l'alimentation en France, le pain n'était pas salé, ou très très peu, parce qu'en fait le sel était extrêmement cher sous l'Ancien Régime, très taxé, et il s'est démocratisé, il a mis du temps, hein. Et du coup, le pain n'était pas salé. Donc, pour ceux qui, malheureusement, sont obligés d'avoir un régime sans sel, pour en avoir goûté, c'est vraiment, on n'est pas du tout habitué. Hein, c'est vraiment dur. Hein. Et donc, il faut attendre vraiment la fin du 19e pour avoir vraiment du pain salé comme on le consomme aujourd'hui. Le pain est plutôt blanc pour les riches. Mais évidemment, plutôt noir pour les pauvres. Alors pourquoi noir ? Parce qu'on utilise des farines mélangées. On va parler de métaille ou de mesclun, hein, donc c'est des mélanges épeautre, seigle, froment, seigle. Il y a beaucoup d'épeautre ici, hein. C'était vraiment une céréale locale, j'allais dire, hein, qui était adaptée aux terres et au climat. Et pourquoi l'importance du pain ? Parce que évidemment, nous, on a l'image de la belle miche blanche, dorée, moelleuse. Le pain ne se consommait absolument pas comme ça. Et on faisait des pains assez gros qu'on gardait très longtemps, qu'on laissait rassire et qu'on utilisait beaucoup en faisant tremper dans la bouillie ou la soupe. Donc c'était vraiment un apport calorique et c'est pas du tout et la belle tranche moelleuse. Voilà, c'est et puis surtout c'était aussi pratique à emmener au champ. On se coupait une tranche, même rassis, hein, et on pouvait l'emporter avec soi. Voilà, et évidemment, le pain, n'oublions pas la symbolique chrétienne, hein. Le pain c'est le corps du Christ, donc il y a du pain absolument sur toutes les tables. Et de même qu'il y a du pain sur toutes les tables, il y a du vin, alors pas sur toutes les tables, mais il y a du vin dans toutes les communautés, parce que le vin, c'est le sang du Christ. Donc de toute façon, on en a besoin pour le rituel religieux. Alors, la Haute-Provence n'est pas très réputée pour ses grands vins. Il y a quand même quelques vins qui rencontrent une certaine notoriété, notamment dans les archives, on trouve des mentions sur les vins de Maligé, des Sieilles, de Chabrières. Chabrières, c'est un vin pétillant. Voilà, donc il y a quand même une petite qualité de vin, mais ils se conservent très mal parce qu'en fait ils ne sont pas assez sucrés, il y a un problème d'ensoleillement, le raisin n'est pas assez chargé en sucre pour pouvoir produire un vin suffisamment alcoolisé pour se conserver longtemps. Quand même, on a trouvé une mention dans les archives où quelqu'un dit que le alors je ne sais plus de quel vin il parle, mais il dit bon, en fait c'est parfait pour faire passer le goût de la vache salée de Lubaye. Voilà, on imagine que c'était quand même un peu la piquette. Voilà, mais il y a quand même du vin, il y a du vin partout, et il faut attendre vraiment l'opiniâtreté de certains vignerons du XXe siècle, hein, pour obtenir, par exemple, l'appellation qu'on connaît aujourd'hui avec Pierre Vert. Voilà, mais c'est du travail, en fait, c'est du travail de la terre, c'est du travail sur les cépages et ça n'est pas du tout été une région qui, naturellement, a vu développer une agriculture de la vigne de qualité. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc après, puisqu'on a parlé du vin qui faisait passer la vache salée, on va parler de la viande. Alors, la viande, dans les Hauts-de-Provence, c'est évidemment le mouton. Hein. Il n'y a très, très tardivement du porc. Alors, pourquoi ? Parce que le porc, on le nourrit avec de la châtaigne. La châtaigne, il n'y en a pas beaucoup par ici. Ou quand il y en a, elle est réservée à la consommation de l'homme. Et après, en fait, le porc s'est développé quand la pomme de terre s'est développée. Parce qu'on a nourri le cochon avec la pomme de terre. Mais il faut attendre le 19e, hein, vraiment, pour que le cochon s'installe en Haute-Provence. La vache, il n'y en a pas tant que ça, parce que le territoire n'est pas adapté à l'élevage des bovins. Donc voilà, c'est essentiellement le mouton, la chèvre aussi. Hein. Et puis après, on complète l'ordinaire quand c'est possible avec des volailles, hein, qu'on a dans sa basse-cour. Et évidemment, les produits de la chasse, mais la chasse est extrêmement réglementée. Ah, évidemment, le braconnage est une institution, mais comme dans toutes les campagnes françaises. Mais voilà, c'est contrôlé, ça donne lieu à des procès, des plaintes. Voilà. Donc en fait, très très peu de viande, ce qui explique notamment en partie la petite taille des basalpins. Hein. Je veux dire, c'est évident que le déficit de protéines, en tout cas par le biais de ce qui est carné, a joué sur leur taille. Voilà. Ben, la viande va passer au lait, hein, le fromage. Alors le fromage, en fait, est une façon de conserver le lait, hein, évidemment. Puisque, et d'ailleurs, la production de fromage, on est bien loin. Là, c'est un peu comme pour le pain. On a l'image du joli pain doré sur la table, tranché, tout moelleux. Les fromages, on est bien loin aussi des jolis plateaux de fromage tels qu'on peut les faire aujourd'hui quand on reçoit des amis. Le fromage, en fait, c'est, on suppose, vu les archives, qu'en fait on mélangeait indifféremment le lait de chèvre et le lait de brebis. Il n'y avait pas la notion de je fais du fromage de chèvre, je fais du fromage de brebis. Mmh. Ça leur importait peu en fait. Ils utilisaient ce qu'ils avaient et ils mélangeaient. On faisait des tomes en fait qu'on laissait vieillir et durcir, et qu'après on râpait en fait. Hein. Donc là aussi, des produits qu'on conserve longtemps en fait, parce que il faut pouvoir manger du fromage quand il fait froid, quand on a besoin d'un apport calorique. Évidemment, apport calorique, c'est un terme parfaitement moderne. Les gens du 18e ne parlaient pas comme ça, mais bon, je pense que quand même, ils devaient se douter qu'il y avait des produits qui devaient leur apporter ce qu'il fallait pour traverser les mois d'hiver qui devaient être bien durs. Voilà. Alors, le fromage se mange soit des tomes très durs qu'on râpe, soit au contraire, on le laisse bien visqueux, bien pourrir. Alors, c'est absolument pas non plus la façon dont on le mangerait aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent peut-être le terme de casseille ou de cachaille. Donc voilà, c'est ce fromage tout voilà, très, très, pas très ragoûtant aux yeux d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai un petit extrait parce que c'était assez amusant le commentaire du témoin là, qui parle de. Voilà, c'est Albert Cotte. Donc Albert Cotte est né en 1907 au Poil. Donc on est quand même au XXe siècle, hein. C'est quand même récent. Et il explique que la casseille est tenue dans une marmite spéciale et se consomme environ un mois après la disparition des vers. Voilà, donc ça en dit long sur la façon dont on mangeait le fromage. Et bon, moi je ne suis pas basalpine, mais j'ai mes grands-parents paternels qui sont du côté de. Enfin, qui étaient. Du côté de Tours, hein, de Touraine. Et je me souviens parfaitement, petite, avoir vu mon grand-père manger c'était du camembert là-bas, du camembert avec des vers. Et c'était un signe de bon fromage. Donc là, les goûts ont radicalement évolué. Je ne suis pas sûre que d'amener un fromage avec des vers sur une table aujourd'hui, ça emballe beaucoup du monde. Mais c'est une réalité. Voilà. Alors, quand même, concernant les fromages, alors on n'a pas trop travaillé sur Bannon, le fromage de Bannon. On aurait pu, mais par contre, on s'est rendu compte qu'au 19e, il y a un fromage qui a été fabriqué à Digne, qui s'appelait le Gaveau, qui est une sorte de roquefort, en fait, donc qui devait être une pâte persillée, et qui a été quand même assez connu pour être exporté. Alors, quand je dis exporté, c'est évidemment pas jusqu'au Japon, hein, mais disons qu'il est sorti du territoire de Haute-Provence pour aller être vendu sur des marchés au-delà de la région. Donc voilà, il y a quand même, mais il faut attendre le 19e en fait, pour que des fromages commencent à apparaître avec des spécificités locales. Et je pense que d'ailleurs que le Bannon doit apparaître grosso modo à cette période-là, ou peut-être au début du 20e. Il faudrait un peu creuser la question. Voilà, ben ensuite l'huile. Hein, l'huile, alors évidemment huile d'olive, mais bon, les oliviers ne poussent pas partout en Haute-Provence, hein, donc quand on est trop en zone quand on est en zone trop montagneuse, ben, on passe à l'huile de noix. Après, on fait de l'huile un peu avec tout ce qui est possible de faire de l'huile. On a même trouvé des mentions d'huile de faîne de hêtre, hein, donc Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on utilisait beaucoup d'huile. Aujourd'hui, on a l'image de l'huile uniquement pour la cuisine, et encore avec parcimonie, parce qu'aujourd'hui, on essaye de faire attention. Mais l'huile, d'abord, était très chère. Elle était rare, c'est-à-dire on ne produisait pas assez d'huile pour la consommation, parce qu'on la consommait évidemment dans la cuisine, mais surtout pour l'éclairage. On l'utilisait aussi dans l'industrie textile, parce qu'on huile en fait les tissus pour, dans la préparation du tissage. Donc on avait besoin de beaucoup d'huile, donc il y avait un vrai commerce de l'huile. Il y avait des muletiers en fait qui traversaient la Haute-Provence avec des grosses outres remplies d'huile qu'on vendait au détail. Enfin, vous savez, les gens venaient avec leur, un peu comme le lait, quoi, venaient avec leur récipient. Donc en fait, on est obligé là pour le coup d'importer de l'huile en Haute-Provence parce qu'on n'en avait pas assez pour la consommation locale. Après, le gros boom, mais ça, dans toute la France, ça a été l'apparition de l'huile d'arachide. L'arachide a pénétré sur le marché français au moment de la colonisation. Et alors, ça a été vraiment une révolution, j'allais dire, parce que d'abord, on a eu moins de problèmes d'approvisionnement. On faisait venir de l'huile d'arachide et on en avait des bonnes quantités. Et puis surtout, ça a modifié la façon de cuisiner, parce que qui dit huile d'arachide dit possibilité de frire. Et d'où l'apparition de la pomme de terre, enfin la frite par exemple, dès le Second Empire, hein, donc dès le milieu du 19e siècle, qui a connu le succès qu'on lui connaît. La friture a de belles heures encore devant elle, même si là aussi il y a des questions sanitaires et de santé qui lui ont fait un peu perdre du recul. Mais on a pu faire frire des aliments, même dans la... Voilà, dans la poêle, mais pas seulement la frite. Et ça a été une grande nouveauté dans l'alimentation. Alors là, c'est sûr qu'à mon avis, le pauvre basalpin travailleur n'a pas dû avoir accès à l'huile d'arachide comme le bourgeois de Paris. Mais n'empêche que l'huile d'arachide a quand même pénétré, y compris nos campagnes, progressivement tout au long du 19e, enfin fin 19e. Et évidemment, au 20e siècle, ça a été le grand boom, quoi. Voilà. Et donc, qui dit huile d'arachide dit produit exotique. C'est un peu la même chose que pour l'huile d'arachide, c'est-à-dire que, évidemment, les premiers à profiter des produits exotiques sont les riches. Bon, on est bien d'accord. Mais on sait, dans les archives, que dès le 17e, on trouve du sucre de canne et du poivre en Haute-Provence, hein, qu'au milieu du 19e, il y a du chocolat qu'on peut se procurer, et à la fin du 19e, c'est du thé. Donc, pour revenir au chocolat, il y a une marque locale, d'ailleurs, qui s'est développée alors, au 20e siècle, que certains connaissent peut-être encore, Alptor, qui vendait du chocolat et du café, et qui avait un logo avec un skieur, c'est assez amusant, et qui déclinait ça, surtout ses paquets de chocolat et de café. Donc, c'est quand même une production locale, une diffusion locale, donc ça veut dire que les gens consommaient chocolat et café. Hein. Donc ça s'est démocratisé au fur et à mesure de la fin du 19e et au 20e. C'est quand même intéressant de voir que la pénétration de ces produits qui sont totalement installés, je veux dire, dans toutes les maisons aujourd'hui, il y a du café, il y a du chocolat, il y a du sucre, pas forcément de canne, mais et du poivre, n'en parlons pas, quoi. Donc là aussi un petit extrait, enfin pas un extrait, mais par exemple pour le poivre, on a trouvé une mention, donc rue de Lubac à Digne, à la veille de la Révolution française, on peut acheter, alors c'est marrant, dans une boutique de coutelier, donc il s'appelait Baptiste Huillet, eh bien on pouvait acheter du café chez lui, voilà. Donc, alors pourquoi le coutelier vendait du café, ne me demandez pas, je ne sais pas. Peut-être que ça a à voir avec le fait de moudre le café, il avait peut-être ce qu'il fallait pour le moudre, j'en sais trop rien à dire vrai. Mais voilà, donc on est quand même à Digne et on pouvait acheter du café. Voilà pour les produits. Après, on va passer aux pratiques. Peut-être après la petite pause musicale, c'est ça ?
D'accord. On va écouter donc une musique de David Bowie que vous nous avez apportée.
Oui, je propose d'écouter Ashes to Ashes. Merci. Thank you.
saying it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing, just pictures of trap girls in synthesis. And I ain't got no money, and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick, but the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high.
Retour avec nous, Laure Franek.
Voilà, brutalement après la chute du la chute de la musique. Oui, donc maintenant qu'on a pu avoir un petit tour d'horizon des produits, alors c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans le cadre de notre exposition, mais comme j'ai eu des questions à ce sujet lors de la conférence de dimanche dernier, parce que les gens sont venus me voir et m'ont dit mais vous ne parlez pas du sucre, hormis de dire que le sucre de canne, mais c'est qu'en fait on mangeait très peu sucré. Le sucre de canne, il a fallu attendre la colonisation. Le sucre de betterave est quand même une création récente. Hein. D'ailleurs, l'apparition du sucre de betterave a entraîné la chute pour les Antilles françaises, notamment de la production du sucre de canne, parce qu'en fait on avait dans notre marché intérieur la possibilité de produire notre propre sucre. Puis après, comment on pouvait sucrer avec du miel? Mais tout le monde n'avait pas des ruches, c'était un produit qui n'était pas extrêmement démocratisé. Donc, en fait, on ne mangeait pas de sucre. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas quand on parle des repas d'autrefois. Le sucre va être introduit à partir du 19e avec l'apparition des produits coloniaux et puis le fait que le niveau de vie augmente hein, et donc l'alimentation se diversifie et là ben oui on peut passer aux desserts qui sont quand même source de plaisir. C'est, on n'est plus dans l'alimentation fait pour tenir mais dans l'alimentation plaisir de partage etc. Donc puis je sais pas là aussi je pense que ça évoquera plein de souvenirs. Par exemple le chocolat. Aujourd'hui, on consomme des carrés de chocolat. Tout le monde a l'image, quand j'allais chez mes grands-parents, on râpait le chocolat pour en consommer le moins possible. En fait, c'était tout simplement ça. Hein. C'était, on le râpait pour le mettre sur une tartine de beurre quand on avait la chance d'être dans une région qui produisait du beurre. Mais voilà, donc on n'est plus du tout dans les mêmes usages. Donc voilà pourquoi on ne parle pas du sucre. Alors, ça va faire une transition sur le repas du quotidien, hein, le repas de tous les jours. Alors, on peut distinguer des grandes constantes, j'allais dire. Dans la maison populaire, donc je parle vraiment du paysan basalpin au 18e et jusqu'au 19e, il n'y a pas de coin cuisine. Le coin cuisine, c'est la cheminée. On fait ses repas directement dans un récipient au-dessus du foyer. Le récipient, alors si c'est une marmite en fonte, on l'appelle la houle. Si c'est un chaudron cuivre, on va l'appeler le pérole. Donc là aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on mange, c'est bouilli. On fait tout bouillir ensemble, de l'eau avec des légumes, des légumineuses éventuellement, un petit morceau de viande pour améliorer le goût. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on va tout manger ensemble. C'est-à-dire qu'on va extraire, par exemple, les légumes qu'on va manger avec un petit filet d'huile à part. Le jus de cuisson va servir de base de soupe avec en y rajoutant du pain. Vous voyez, mais la cuisson, c'est on met tout dans la marmite et puis ça bouillonne et voilà, c'est pas très élaboré, vous voyez, c'est quand même, on est beaucoup dans des repas de bouillie. Là, c'est pareil, aujourd'hui, hormis des fois quand on fait un pot-au-feu, on cuisine plus du tout de la même manière. Après, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de la Révolution française, va apparaître quelque chose qu'on trouve encore dans certaines maisons de campagne, qu'on appelle le potager. Donc, c'est ce petit espace qui, en général, pas très loin de la cheminée, pas très loin d'un point d'eau, aussi. Hein. Alors le point d'eau, ce que nous on appellera l'évier, ensuite c'est la pile, hein, l'endroit où on peut justement faire aller les eaux de nettoyage et les eaux de cuisson dont on ne veut pas se servir. Et le potager, c'est ce petit espace où on va mettre des braises par-dessous, et ce qui va permettre de faire une cuisson beaucoup plus douce que directement dans le foyer. Donc ça va totalement changer la façon de cuisiner. Et il va apparaître là aussi quelque chose que tout le monde connaît, c'est le tian. Alors le tian, c'est marrant, parce qu'il y a des gens dimanche qui m'ont dit, mais moi je pensais qu'un tian de légumes c'était un plat, enfin une recette. Je dis, ben non, le tian c'est le récipient avant tout, hein. C'est comme si on disait une cassolette de légumes. Hein. Le tian c'est en fait l'ustensile dans lequel on cuit. Alors après évidemment ça a évolué, on a fait des petits tians pour faire des petites cassolettes qu'on met directement sur les tables aujourd'hui, mais c'était pas du tout ça, c'était vraiment le récipient composé en général sur un trépied, sur donc ce fameux potager. Et si les gens ont encore des maisons anciennes, il y a souvent encore ce petit espace. Donc des fois, on se demande à quoi ça sert. Ça fait comme un évier, en fait. Ça ressemble à un évier, sauf qu'il y a de quoi mettre des braises en dessous et on peut faire cuire. C'est un peu l'ancêtre de la cuisinière. Hein. Voilà. Et évidemment, après, va apparaître le four. Hein. Mais là, c'est pareil, le four a d'abord été dans des familles riches et puis c'est progressivement démocratisé. Et avec le four, évidemment, on change de façon de manger aussi, parce qu'avec le four apparaît la possibilité de gratiner. Imaginez faire un gratin à la cheminée, c'est pas possible. Voilà, donc on gratine. Voilà. Et là aussi, c'est-à-dire des possibilités de nouvelles recettes, une nouvelle façon de manger. Parce qu'avant, en fait, il n'y avait pas cette possibilité-là. Et la notion de croustillant, en fait, est une notion vraiment moderne, en fait. Hein. Avant, le croustillant, c'était ce qui restait collé au fond de la casserole. Que d'ailleurs, les gens aimaient bien racler. C'était la seule chose qu'on pouvait rendre croustillant. Voilà, donc c'est assez amusant de constater tout ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans nos habitudes alimentaires. On n'imagine pas quand même le chemin qu'on a pu mesurer. Des fois, simplement parce qu'il y a eu des avancées techniques qui ont fait que notre façon de vivre a changé. Ben, regardez l'informatique, hein, c'est, voilà, c'est, on est en plein là-dedans. Donc toujours pour revenir, parce que du coup j'ai un peu dévié et j'ai un peu débordé sur l'autre petit thème qui est l'évolution des goûts, mais bon, c'est pas bien grave. Après, donc toujours pour le repas du quotidien, comme je disais au début, le travailleur mange peu, mais il va manger souvent. Il va manger jusqu'à 5 fois par jour, notamment pendant les périodes de travaux des champs. En contrepartie, les riches vont manger moins en temps de repas, mais d'ailleurs, vous constaterez qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Hein, quand vous regardez des gens qui travaillent sur des chantiers, ils mangent un vrai casse-croûte à 10 heures, par exemple. Hein, chose que des gens de bureau font rarement, quand même. Hein. Donc, là, c'est, voilà, la dépense physique induit en fait la nécessité de manger plus souvent. Les riches, alors il y a un art de la table qui va se développer dès l'ancien régime, hein, mais évidemment à la cour, hein, avec notamment un service qu'on va appeler à la française, hein, qui est un service où il y a en fait les plats sont posés sur les tables. On va même développer. Des gens connaissent peut-être le terme de surtout, les surtout de table, c'est comme une mini-architecture qu'on compose sur les tables. Évidemment, il faut avoir des grandes tables, hein, c'est des tables de très très riches, et c'est de l'apparat, hein, c'est de la belle orfèvrerie ou de la belle porcelaine. Voilà. Alors ça, on est vraiment chez les très riches. Mais il va quand même se développer après chez les bourgeois un art de la table, avec de la belle vaisselle, des beaux couverts. Et puis, il y a progressivement un service dit à la russe qui va s'imposer, qui est un service au plat, qui est le service qu'on connaît aujourd'hui, notamment dans la restauration, où on vous sert l'assiette, quoi. Voilà. Et ça s'est totalement imposé dans le courant du 19e. Après aussi, dans le repas de tous les jours et les grandes évolutions qui ont traversé surtout le 19e et le 20e, évidemment, en Haute-Provence, on parlait, ça aussi c'est un anachronisme, aujourd'hui on parle de circuit court, évidemment on mangeait ce qui était produit localement, mais on a parlé des produits exotiques, mais pas seulement, il y avait quand même une importation et une exportation par le biais des foires. Il faut imaginer que les foires, c'était vraiment des grands temps dans les villages, hein. C'était le moment où on pouvait aller acheter et vendre des produits. Donc ça permettait quand même un échange et d'acheter des choses qui se produisaient ailleurs. Et aussi noter qu'à la fin du 19e, alors ça c'est vraiment une... Alors, il y a une raison double, hein, c'est les épiciers vont commencer à vendre des produits transformés qui sont pré-emballés. Alors, c'est amusant parce qu'aujourd'hui, on refait un mouvement inverse où pour des raisons écologiques, on essaye on aime bien acheter en vrac, hein, et venir avec ses propres emballages. Là, au contraire, à la fin du 19e, se développent les produits pré-emballés et transformés. Alors, pourquoi? Il y a des raisons hygiénistes, hein, parce qu'on estime que quand c'est pré-emballé, c'est plus propre. Il y a aussi un goût du nouveau, hein, les produits transformés. Là, dans l'exposition, on a montré une... Je vous donne l'extrait. On a montré une photo de... C'est assez amusant de... On est devant une épicerie, alors je ne sais pas où elle se trouve, est-ce que c'est à Sisteron ou à Digne, c'est pas très grave. Donc c'est toute une famille d'épiciers qui pose devant la devanture. On est vers 1930 et il y a une grande publicité pour le bouillon cube OXO. Voilà. Et alors, en fait, il faut savoir que les bouillons cubes, les bouillies préfaites, ça a eu énormément de succès. C'était considéré comme un signe d'aisance, de modernité.
Non, ça, c'est apparu quand ?
Ah là, on est au début du 20e. Hein. Mm-hmm. Ouais. Et alors, évidemment, les bouillons cubes ont connu vraiment un grand succès, qu'ils connaissent toujours d'ailleurs, hein, parce que ça marche. Alors, je pense qu'il y a eu un recul quand même. Hein. Mais, donc ça, on parle aujourd'hui de malbouffe, mais je veux dire, la nourriture industrielle ne date pas de ces 10 dernières années. Hein. En fait, ça remonte quand même à un petit bout. Voilà, donc on a déjà parlé du pain. Le pain, en fait, progressivement va donc se saler et se blanchir. Ça va être un signe d'opulence. On va de moins en moins bouillir. Donc on va effectivement faire frire, faire revenir, faire gratiner. Et puis surtout, là, j'allais dire, ce qui vraiment traverse tout le XXe siècle, c'est la prédominance de plus en plus avérée de la viande. Manger de la viande, c'est un signe. Alors, au XIXe, c'est un signe de réussite sociale. Hein, oui, ces images de ces caricatures de bourgeois avec leur gros ventre bien repu, voilà. Mais pourquoi ? Parce que le pauvre n'avait pas la possibilité de manger de la viande. Donc, son rêve, c'était de faire un repas bien carné. Et jusque dans les années 60, cette augmentation de la consommation de la viande ne va pas se démentir. Et puis aujourd'hui, on est dans un reflux inverse pour des raisons écologiques, pour des raisons de santé. Voilà. Mais la consommation de viande chute quand même. Les gens mangent moins de viande. Mais c'est clair que pendant tout le fin 19e et tout le début du 20e siècle, la consommation de viande n'a fait qu'augmenter. Voilà donc pour les petites choses comme ça qui caractérise l'évolution des repas jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on a fait des panneaux sur vraiment ces temps un petit peu particuliers. Alors le pique-nique, c'est un repas pris sur le pouce, mais quand même préparé. Alors, évidemment, c'est des gens qui ont des loisirs, qui peuvent se permettre les pique-niques. Donc au début, c'est réservé vraiment à une élite. Très tôt, hein, dès le 18e, il y a des mentions de pique-nique. C'est pas un mot récent du tout, le terme de pique-nique. Et puis progressivement, ça va se démocratiser avec les congés payés. Il va y avoir une image du pique-nique. Alors, mais on est bien loin du paquet de chips et de la canette. C'était préparer un vrai pique-nique avec des foies, de la vaisselle particulière.
Oui, les paniers étaient jolis.
Regardez les tableaux des impressionnistes qui représentent justement des pique-niques au bord de la Seine. Si au départ c'était réservé à une élite, ça s'est démocratisé évidemment jusqu'au milieu du XXe siècle. Le casse-croûte, c'est différent. Le casse-croûte, c'est vraiment un repas pris en dehors de chez soi parce qu'on travaille en dehors de chez soi et qu'on emmène son panier repas. Alors, en Haute-Alpes, notamment pendant la période des moissons, pendant la période des moissons, le travailleur des champs partait avec un morceau de pain et des omelettes froides. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on trouve. Voilà. On entend beaucoup parler d'omelettes aux herbes, hein, qu'on connaît toujours. Alors les herbes, ça pouvait être vraiment, vraiment des herbes. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait que ça c'était vert et ça agrémentait vaguement l'omelette. Après, quand il y a eu l'exode au début du XXe siècle, trop de paysans pour la Haute-Provence, c'est pas valable que pour cette région, mais notamment en Haute-Provence, il y a beaucoup de paysans qui ont quitté la région et évidemment, par un effet mécanique, ceux qui sont restés sur place ont vu leur ordinaire s'améliorer. Il y avait plus de travail, plus de terre et du coup, leurs repas se sont améliorés. Donc là, on a commencé à voir apparaître ce qu'on appelle le repas au couteau. Donc là, ils partaient quand même avec un morceau de... C'est-à-dire couper au couteau, ça veut dire qu'ils coupaient un morceau de pain et ils coupaient un morceau de viande au couteau. Et là, on sait qu'il y a de la viande salée qui pouvait se consommer pendant les travaux des champs. Et au 19e, avec l'apparition du cochon, eh bien, le jambon. Le jambon a commencé à apparaître et à être consommé pendant ces périodes-là. Et on sait aussi, là on est plutôt au 20e siècle, qu'au champ, on consomme du café et un peu de vin. Alors, c'est surtout les hommes. Hein. En fait, on voit que c'est surtout les hommes qui consomment du vin et du café. Mais là aussi, on constate quand même une amélioration du repas du travailleur à la fin du 19e et puis tout au long du 20e siècle. Parce que la pression de la population... Si vous voulez, il y a quand même moins de paysans et du coup, ben, ceux qui sont là, ils vivent un petit peu mieux. Voilà, c'est triste, mais c'est la réalité. Après, un petit point sur les banquets, les repas de fête. Alors, intéressant donc de voir, comme je l'ai dit au début, hein, que le repas de fête, c'est pas forcément un repas où on va manger des produits extraordinaires. Par exemple, prenons le fameux gros souper. Alors, c'est vrai que le gros souper, c'est un repas maigre quand même. Hein. On n'est pas censé manger des quantités de viande. Donc, là, quand il y a de la viande, ça va être des escargots. C'est des choses quand même assez basiques. Là, pour le coup, il y a les fameux 13 desserts. Hein. Mais 13 desserts, il y en a 13. Mais quand on les regarde, quand on les prend indépendamment les uns des autres, c'est des desserts très simples. C'est des fruits secs, c'est du nougat, c'est des croquants. Enfin, c'est pas la pièce montée, hyper élaborée, avec 36 crèmes. Vous voyez, c'est des choses toujours très simples. Ce qui marque le temps de la fête, ou même le temps du banquet, ça va être l'abondance et puis quand même l'introduction de la viande. Alors juste pour revenir sur le gros souper, c'est pareil, c'est pas une tradition provençale qui date de 6 siècles, hein. C'est quelque chose qui s'est progressivement codifié au 19e et puis surtout au début 20e sur l'impulsion des faits libres qui ont vraiment donné une touche très provençale à la culture en codifiant ce fameux gros souper et ces 13 desserts qu'on connaît toujours. Voilà, j'avais fait aussi un petit... Juste parce que c'est assez intéressant, le banquet tout au long du 19e, je parle vraiment du banquet là, alors évidemment on fait un banquet pour une cérémonie familiale, baptême, mariage, mais il y a aussi des banquets pour des raisons politiques. Alors ça c'est plus étonnant aujourd'hui, il y a encore hein, parfois dans certains villages, par exemple le 14 juillet, il y a un bal, mais il y a aussi un banquet. Et en fait c'est ça, c'est l'héritage du banquet républicain. C'est-à-dire que tout au long du 19e, les républicains, pour vraiment affirmer leur opinion publique de manière publique, c'est-à-dire aux yeux de tous, organisent des banquets. Évidemment, c'est des souscriptions, c'est aussi des manières de ramasser un petit peu d'argent, mais c'est surtout une manière de proclamer, de faire des toasts à des leaders républicains. Les banquets, d'ailleurs, parfois seront interdits. C'est l'une des raisons pour lesquelles la révolution de 1848 a démarré, hein. C'est parce que le pouvoir a interdit des banquets républicains, et que ça a mis le feu aux poudres. Voilà, donc ça, c'est assez amusant, parce qu'on a totalement oublié ça, cet aspect politique du banquet. Aujourd'hui, on va plutôt au restaurant, et petite transition, le restaurant sur les repas du voyageur. Pendant tout l'Ancien Régime, le voyageur, quand il voyageait, il s'arrêtait dans des auberges. On ne parle pas de restaurant, des auberges. L'auberge, en fait, c'est pour changer de monture, et pour dormir, et pour manger. Mais en fait, c'est d'abord pour changer de monture et pour dormir, et donc, accessoirement, on y mange. D'où l'expression « qui dort dîne ». En fait, ça vient de là. C'est assez amusant. Le restaurant est apparu après la Révolution, avec le succès qu'on lui connaît, notamment en France. Ça devient vraiment un lieu de sociabilité, masculine essentiellement au début. Et puis surtout, avec ce restaurant, ça va être le début de la cuisine va se régionaliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'avec les restaurants, il va y avoir une tradition régionale qui va commencer à se fixer. Voilà, et là... Un peu vite, puisqu'on arrive à la fin. Juste, je termine parce que c'est la touche locale pour le coup concernant ce sujet de l'alimentation. En Haute-Provence, il y a eu un certain succès du commerce des fruits séchés. Alors, tout le monde connaît la prune de Brignoles, mais on sait aujourd'hui que cette fameuse prune de Brignoles était en partie cultivée dans la vallée de l'Asse et autour de Castellane, mais vendue sous l'appellation prune de Brignoles. Qu'il y avait quand même des prunes séchées localement, qu'on appelait les pistoles, qui étaient vendues. Alors pistoles, mais parce qu'en fait, les gens ne la consommaient pas eux-mêmes, hein, c'était assez recherché, c'était exporté en dehors de la Haute-Provence. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le service des archives départementales, s'ils se demandent pourquoi il y a ce grand toit couvert, c'est qu'en fait, l'architecte a voulu faire référence au séchoir à prunes. Voilà, c'est pour ça. Cet grand espace que les gens jugent vide, c'est un séchoir à prunes. Et puis évidemment, on faisait sécher aussi la pomme, la poire. Et au 19e, la grande culture qui a bien marché en Haute-Provence, c'était les amandes. Hein, les amandiers étaient vraiment très, très cultivés. Et ça a permis une vraie exportation des produits locaux. Voilà pour ce tour à bâton rompu de l'alimentation des Bas-Alpins.
Alors, c'est passionnant.
J'espère que ça a donné faim à tout le monde, hormis la cachaille. Merci Odile.
On a le temps de dire une actualité.
D'accord.
Reste une minute.
Une minute pour l'actualité, impeccable. Eh bien, alors là, on vient de publier avec l'association Mémoire 1851 un ouvrage consacré à 1851 qu'on ne vend pas aux archives, mais c'est l'association qui le commercialise. Il a été présenté la semaine dernière dans le cadre de toute une série d'animations, un salon du livre au mai, des conférences, une lecture d'archives. Donc c'était vraiment très intéressant. Donc ça fait un bon point sur cette période historique bien connue pour le département. Voilà, après, notre prochaine vraiment actualité, on va publier et présenter au public le 7 décembre à 18h aux archives. J'espère que je ne me trompe pas, mais je pense qu'au mois de novembre, j'aurai le temps de redire ça pour tout le monde. Mais là, on est en train d'y travailler. On avait fait une journée d'études sur la matière et le bâti consacrée à la pierre, donc il y a bientôt 2 ans. Et donc on publie les actes de ce colloque et les auteurs vont présenter leurs travaux au public. avec le livre, donc au mois de décembre. Voilà un peu pour les prochaines actualités des archives départementales. Après, enfin, excusez-moi, oui. Je coupe, mais après, pour l'actualité vraiment régulière, j'invite tout le monde à aller sur notre site, donc archives au pluriel 04.fr. Et on a un bandeau actualité qu'on réactualise quand l'actualité change, où on annonce nos conférences, nos lectures, nos fermetures aussi, parce que parfois on ferme pour des raisons d'animation. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers notre site.
Voilà. Alors, Franek, merci beaucoup.
Merci.
C'était passionnant et on retrouvera cette émission sur notre site dès ce soir. Merci, au revoir.
Au revoir, Odile, merci.